Regard de femmes, les mardis de l'été 2019 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
La conversion d'une missionnaire, sœur Marie de l'Incarnation, voici l'intervention de Marie-Caroline Bustaret, docteur en théologie, rédactrice en chef adjointe de la revue Christus. L'intervention de Marie-Caroline Bustaret a été enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz le 13 août 2019. Elle est précédée du mot d'accueil de l'abbé Lionel Andard.
Chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'église de Saint-Jean-de-Luz. Pour certains parmi vous, vous êtes ici pour une énième conférence dans le cadre des conférences des mardis de l'été de cette année, dont le thème est « Regard de femmes ». Puisque nous avons l'honneur et l'avantage de n'avoir que des conférencières qui s'adressent à nous. Pour d'autres, peut-être, vous avez sélectionné cette conférence particulière aujourd'hui de Marie-Caroline Bustaret, que je remercie d'être au milieu de nous. Alors, nous disions tout à l'heure de manière très esthétique que vous êtes habillée en bleu, un peu comme il y a du bleu sur le tableau de la Vierge de l'Assomption qui est derrière vous, qui est une œuvre du peintre Jean-François Simon de Bayonne. Ce tableau nous a été prêté pour la semaine mariale par ce peintre de Bayonne, qui est par ailleurs aussi l'artiste qui a créé le tableau représentant le bienheureux Louis-Édouard Sestac, qui avait été dévoilé dans le rituel de la béatification, qui était présidé par le cardinal Amato, légat du pape pour la béatification il y a quelques années maintenant à la cathédrale de Bayonne. Donc nous avons une Assomption de la Vierge Marie pour accompagner votre propos. Je trouve que c'est bien dans une semaine mariale. Alors vous êtes Marie-Caroline mariée, mère de 4 enfants. Vous avez fait des études de traduction, oui, dans un premier temps, et de gestion des entreprises. Vous avez travaillé dans la grande distribution, comme commercial dans le secteur du textile.
Comme acheteuse.
Ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est une autre vie, me disiez-vous.
Oui.
Alors, pour arriver à cette vie-ci, vous avez suivi un parcours d'études de philosophie et de théologie, premier cycle de théologie, deuxième cycle et troisième cycle, au Centre Sèvres, faculté des Jésuites de Paris. Vous êtes docteur en théologie. Nous nous inclinons. Vous avez fait une thèse dans le domaine de la théologie spirituelle, qui est un travail d'analyse de la correspondance de Marie de l'Incarnation autour de la question de l'action. Vous avez publié un livre, Marie de l'Incarnation, honorer le singulier au CERF. Vous avez collaboré aux revues du MEJ, qui est le mouvement eucharistique des jeunes. Et aujourd'hui, vous êtes la rédactrice en chef adjointe de la revue de spiritualité jésuite Christus. Et vous pratiquez également l'accompagnement spirituel. Ce soir, dans cette église de Saint-Jean-de-Luz, en pleine semaine mariale, vous venez nous parler, alors que nous sommes au XXIe siècle, d'une femme du XVIIe siècle,
eh oui,
qui s'appelle Marie, elle aussi, Marie Guyard, et en religion, elle a gardé le même prénom, Marie de l'Incarnation. Eh bien, Marie-Caroline, je vous remercie infiniment d'être parmi nous et je vous donne enfin la parole.
Merci. Je vous remercie. Merci, Père Landard. Vous avez dit que le thème de ces conférences cet été, c'était les regards de femmes. Donc, vous avez bénéficié tout l'été de regards de femmes politiques, de femmes qui regardaient l'architecture, de femmes qui sont intéressées à l'éducation, à l'histoire de l'art, etc. Et quelle n'a pas été ma surprise en lisant, en ouvrant Sud-Ouest hier, de voir que c'était le regard de Marie-Caroline dont vous aurez dont vous aurez la joie de bénéficier ce soir, parce que en fait, c'est pas mon regard dont vous allez bénéficier, mais c'est celui de Marie de l'Incarnation. C'est elle qui va nous faire voir comment être missionnaire et comment entrer en relation avec une population étrangère. Nous sommes tous en contact avec des populations étrangères, et si aussi étonnamment que ça puisse paraître, moi en tant que mère avec mes enfants ou même avec mon mari. Alors vous avez peut-être remarqué le paradoxe qui réside dans le titre de ma conférence, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la conversion d'une missionnaire. En général, quand on pense à un missionnaire, on pense à quelqu'un qui va convertir d'autres personnes. Là, il s'agit de la conversion de la missionnaire. C'est ça dont je vais vous parler. Alors, pour ça, je vais d'abord vous présenter Marie de l'Incarnation. Alors, on va passer un petit peu de temps sur sa vie pour voir qui elle est. Et puis ensuite, je vais faire un travail de carottage. Vous savez, comme pour tester le bon fromage, on prend un appareil, on le sonde, on retire un tout petit morceau, on goûte le morceau, puis on le remet en place. Ben, on va faire ça avec Marie de l'Incarnation ce soir. On va s'intéresser à cette question de la conversion. Pourquoi est-ce qu'une missionnaire a besoin de se convertir ? Alors pourquoi est-ce qu'une femme, le père Landard a dit que c'était quand même assez étonnant à des hommes et des femmes du XXIe siècle d'aller parler d'une femme qui a vécu au XVIIe siècle ? Pourquoi donc nous intéresser à cette femme qui a vécu dans une autre époque, un autre temps ? Alors on n'est plus au temps de la mission aujourd'hui, plus tellement, on est au temps de la mondialisation et on est aussi confronté, peut-être plus encore que Marie de l'Incarnation, à l'épreuve de la rencontre, à l'épreuve de la fraternité. Comment vivre les uns avec les autres ? Comment se comprendre ? Marie de l'Incarnation nous montre un chemin. Alors commençons par la présentation. Donc Marie de l'Incarnation, c'est une ursuline. Il y a deux Marie de l'Incarnation au XVIIe siècle. Il y a Marie de l'Incarnation, la carmélite, et Marie de l'Incarnation, l'ursuline. Moi, je vais vous parler de l'ursuline. La carmélite, elle est restée à Paris. L'ursuline, elle est partie au Canada. Donc c'est une femme originaire de la ville de Tours qui a été missionnaire au Québec au XVIIe siècle, fondatrice des Ursulines au Canada, et c'est une grande et belle figure mystique, une femme dite d'action. C'est pas la fondatrice des Ursulines, qui est Angèle Mérici, mais c'est une figure très importante pour les Ursulines de par le monde. Elle a eu quelques expériences mystiques marquantes, qu'elle a racontées par écrit, mais elle a surtout une vie passionnante, mouvementée, et malgré tous les événements qu'elle a vécus, elle a eu une vie profondément enracinée dans une relation à Dieu. Alors elle a vécu quatre vies. Sa première vie s'est passée à Tours. Elle est née le 28 octobre 1599 au sein d'une petite famille de la bourgeoisie de province. Ses parents sont des artisans aisés. Elle mène une enfance heureuse, entourée de sa famille. Elle a des frères et des sœurs avec lesquels elle s'entend très bien. Elle fréquente l'école, elle sait lire et écrire, ce qui est assez remarquable à l'époque. Ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment d'un beau-frère qu'elle va aider plus tard, je vous raconterai ça, qui lui était analphabète, chef d'entreprise mais analphabète. Elle raconte dans... Alors elle a écrit donc des correspondances, une correspondance sur laquelle moi j'ai travaillé, mais elle a aussi écrit des écrits spirituels, notamment un écrit qu'elle appelle sa relation spirituelle, où elle raconte ses états intérieurs à son fils. Dans sa relation spirituelle, elle raconte qu'à 7 ans, elle a fait un rêve qui annonce son désir d'union au Christ. Elle y voit Jésus venir à elle et lui demander « Voulez-vous être à moi ?» Ce à quoi elle répond un oui, définitif, ferme, convaincu de son affaire. Ce rêve, dit-elle, la met d'ores et déjà dans une disposition intérieure toute particulière qui sera une disposition d'union au Seigneur qu'elle va creuser au fur et à mesure de sa vie. Et la vie de Marie de l'Incarnation est à interpréter à la lumière de ce premier appel auquel elle a répondu oui. Premier appel qui va imprégner sa vie d'enfant d'une vie d'union au Seigneur par l'oraison, par la confiance et par une très grande foi. Elle dit « L'Esprit de Dieu m'occupait intérieurement par une force d'une efficacité secrète pour me gagner entièrement à lui ». Donc ça, c'est quand elle était adolescente qu'elle exprime ça. À 14 ans, elle exprime le désir d'entrer chez les bénédictines. Mais ses parents n'accordent absolument aucun crédit à ses vœux de vie religieuse. Ils trouvent qu'elle a beaucoup trop de personnalité, qu'elle ne supportera pas la contrainte de la vie religieuse. Donc à l'âge de 17 ans, donc elle obéit à ses parents, bien sûr, et à l'âge de 17 ans, elle épouse par obéissance un maître ouvrier en soi. Elle se retrouve malheureusement veuve après à peine 2 ans de mariage, et mère d'un jeune enfant qui a 6 mois. Elle entreprend la liquidation de l'affaire de son mari, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il y avait un problème de faillite, il y a eu un procès, elle gère tout ça, alors que la loi Tourangelle lui permettait de se laver les mains de la gestion de la faillite, mais elle décide de gérer le procès, montrant déjà qu'elle a un sens des affaires et qu'elle a le goût des affaires. Donc elle vit ce qu'elle appelle ses tribulations, en disant « Je croyais fermement qu'il était avec moi, puisqu'il l'avait dit, de sorte que la perte des biens temporels, les procès, la disette, ne m'inquiétaient point. L'esprit qui m'occupait intérieurement me faisait venir à bout de tout ce que j'entreprenais. » Elle se réinstalle chez son père, elle se fait à nouveau courtiser, mais à 21 ans, elle vit une expérience mystique qu'elle appelle sa grâce de conversion, je vais revenir dessus plus tard, qui va inaugurer une vie de solitude et de mortification auquel elle mettra fin quand elle entrera chez les religieuses ursulines, de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Elle fait un vœu dans la vie, elle continue à vivre une vie laïque, mais elle fait ce vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Et décide à ne pas se remarier alors que tout le monde la presse pour qu'elle se remarie. C'est certainement une femme jolie, avec beaucoup d'allant, beaucoup de caractère. Et donc, y a une certaine pression dans sa famille, mais elle s'y refuse. Elle dit à son directeur de conscience quelques années plus tard, parce qu'elle a ce vœu, elle a toujours ce désir de vie religieuse qu'elle ne peut pas accomplir parce qu'elle est mariée, qu'elle a un enfant plutôt, elle n'est plus mariée, mais enfin elle est veuve mais elle a un enfant. Mais elle dit à son directeur de conscience qu'elle est travaillée par ce désir d'œuvrer au salut des âmes et que ça c'est sa vocation profonde, la vocation apostolique. Alors il va quand même lui falloir attendre quelques années avant de trouver la voie qui est la sienne pour répondre à sa vocation, qui est celle d'être missionnaire. Donc elle va trouver sa voie d'abord chez les religieuses, et puis ensuite les ursulines, et puis ensuite elle trouvera sa voie de missionnaire quand elle partira au Canada. En attendant, elle vit avec son père et son fils, et travaille pour gagner sa vie, et se plonge tout en travaillant dans une vie profonde d'union mystique au Seigneur. Donc une vie marquée par des épisodes mystiques qu'elle raconte dans ses écrits. Donc ça, c'est sa première vie. La deuxième vie, vient assez rapidement après sa vision mystique, quand elle a 21 ans. Elle entre au service de sa sœur et de son beau-frère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont à la tête d'une entreprise de transport par voie fluviale et terrestre. Elle va les aider parce qu'ils sont complètement débordés par l'affaire. Sa sœur est enceinte assez régulièrement et n'arrive plus à s'en sortir, donc elle va aider sa sœur. Alors, tout début, Marie commence par se mettre au service des tâches les plus ingrates. Elle fait le ménage, elle s'occupe des employés, des charretiers, des bateliers, des crocheteurs. Enfin, vous imaginez le genre de population au service de laquelle elle se met. Elle s'occupe des chevaux, elle va cureter les sabots des chevaux, etc. Elle raconte « Je passais presque les jours entiers dans une écurie qui servait de magasin. Et quelquefois, il était minuit que j'étais sur le port à faire charger ou décharger des marchandises. Ma compagnie ordinaire était des crocheteurs, des charretiers, et même 50 ou 60 chevaux dont il fallait que j'eusse le soin. Elle côtoie ses employés grossiers et mal instruits, dit-elle, dont le langage est à la hauteur de l'expression « jurait comme un charretier », et elle prend ses repas avec eux. Et la compagnie rustre de ces hommes n'est pas pour l'effrayer. Son goût pour la relation et son désir de transmettre le Seigneur, mais aussi son fort tempérament et son audace, trouve là à s'exprimer. Elle raconte, quelquefois, voyant une troupe d'hommes assemblés qui blasphémaient son nom, le nom du Seigneur, ou qui disaient des paroles sales, je m'allais mettre avec eux, afin qu'ils cessassent en me voyant. Quand ils étaient à table, c'était là qu'ils faisaient encore beaucoup de péchés. Et moi, pour les en empêcher, j'allais manger avec eux. J'étais là toute seule, avec 12 ou 15 hommes. Donc vous imaginez la trempe de cette femme qui n'avait pas peur d'aller se glisser à table entre deux charretiers pour parler des grâces du Seigneur à des hommes qui avaient de toute évidence envie de parler d'autre chose. Mais elle s'entretient avec eux, elle pense leurs mots, elle est traitée et nettoyée comme des enfants, dit-elle. Et malgré, cependant, son désir de rester en retrait dans l'entreprise, donc à ses niveaux, à ses tâches un peu subalternes, elle se voit assez vite appelée à prendre de plus en plus de responsabilités dans l'entreprise, parce que sa sœur et son beau-frère sont toujours un peu débordés. Son beau-frère s'en va souvent pour les affaires ou part à la campagne pour se reposer. Et elle finit par prendre la tête de l'entreprise, cette entreprise de négoce. Elle dit « Dieu m'avait donné du talent pour le négoce ». Donc elle devient chef d'une petite entreprise, une petite PME. Elle vit ainsi une vie très active, tout en étant dans un état intérieur d'union au Seigneur très fort. Elle reçoit des dons, le don d'oraison. Elle vit dans une présence continuelle au Seigneur. Elle a des grâces mystiques, nombreuses, des visions de l'incarnation, des visions trinitaires. Mais, dit-elle, cela n'empêchait point l'expédition des affaires. Elle vit aussi le combat spirituel. Et elle trouve, dit-elle, le soulagement de ses difficultés intérieures dans la pratique de la charité. Elle est soulagée quand elle s'occupe et quand elle est en action. Donc ça, c'est la deuxième vie en tant que chef d'entreprise. La troisième vie commence en 1631, quand elle entre chez les Ursulines, qui viennent de s'installer à Tours. Elle a choisi d'entrer chez les Ursulines contre l'avis de son confesseur. Alors, le confesseur, à l'époque, il avait sa parole, c'était la parole divine. Malgré tout, Elle a senti que son goût pour la vie apostolique l'appelait à aller chez les Ursulines, alors que son confesseur aurait bien voulu pour elle une vie de religieuse cloîtrée, type Carmel. Elle s'oppose comme elle sait faire, c'est-à-dire avec autorité mais délicatesse à son confesseur, et elle entre chez les Ursulines. Elle dit « J'avais choisi les Ursulines parce qu'elles étaient instituées pour aider les âmes, chose à laquelle j'avais de puissantes inclinations. » C'est la fibre apostolique et missionnaire qu'elle aura plus tard. Alors pour entrer en religion, Marie doit laisser son fils qui a 12 ans. Et cela ne se fait pas sans déchirement. « J'aimais mon fils d'une amour bien grande. C'était à le quitter que consistait mon sacrifice. Mais Dieu le voulant ainsi, je m'aveuglais volontairement et remettais le tout à sa providence. » Vous voyez, on est au XVIIe siècle. Hein. Donc au XVIIe siècle, qu'une mère quitte ses enfants pour la vie religieuse, c'est complètement dans l'ordre des choses. Nous, on a du mal à comprendre aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est compréhensible. Et un garçon de 12 ans, c'est un garçon qui a l'équivalent d'un garçon de 18 ans aujourd'hui qui peut commencer à travailler. Donc elle est poussée à la fois par la société, parce qu'une femme veuve... on n'aime pas beaucoup ça, on préfère soit qu'elle se remarie, soit qu'elle rentre dans les ordres. Donc il y a la société qui pousse, et puis elle sentait un appel intérieur très fort. Une voix du Seigneur lui disait « À toi il est temps, il ne fait plus bon pour toi dans le monde ». Mais la séparation avec son fils n'en laissera pas moins une marque. Elle dit « Il me semblait qu'on me séparait en deux ». Alors le fils sera confié à la garde de la sœur, de Marie de l'Incarnation, bon, rien que très ordinaire dans ce XVIIe siècle. Et Marie de l'Incarnation rentre chez les religieuses. Elle se coule sans aucune difficulté dans la vie religieuse. Elle sera maîtresse des novices au bout de 2 ans. La maîtresse des novices a un rôle absolument fondamental dans la vie religieuse. C'est elle qui forme les jeunes religieuses à la vie à laquelle elles sont appelées. On en connaît une très grande, c'est Thérèse de Lisieux qui a été maîtresse des novices. Elle connaît encore des difficultés intérieures, donc un combat spirituel intérieur, mais elle ne perd pas confiance. Elle connaît à nouveau des grâces mystiques. Et elle vit un songe annonciateur de sa mission au Canada. Elle voit un pays, et plus tard, le Seigneur lui dit « Ce pays que je t'ai fait voir en songe, c'est le Canada auquel tu dois aller. » Donc elle passe 8 ans au monastère de Tours, 8 années durant lesquelles elle se forme à la vie religieuse. Le Seigneur la guide, elle se confie à lui en toutes circonstances, dans une confiance absolue. Et elle ne raconte quasiment plus de manifestations mystiques par la suite. À 40 ans, c'est sa 4e vie qui commence. C'est donc une femme mûre, dotée d'une foi solide, qui se prépare pour la mission. Elle a appris par son réseau que les jésuites, qui sont alors en charge de la mission au Canada, ont besoin de femmes pour assurer l'éducation, des jeunes amérindiennes et des filles de colons français, et elle se propose donc de partir, sachant que tout concourt à ce qu'elle ne parte pas. Mais, convaincue que le Seigneur la veut là-bas, elle active son réseau et elle fait tout pour partir, fort de la conscience tranquille que la volonté de Dieu est derrière elle. Donc toute la correspondance de Marie de l'Incarnation est traversée par à la fois cette expression de sa volonté personnelle forte, elle a envie de partir au Canada parce que si elle a certainement, elle tient pas beaucoup en place, et en même temps la capacité à se couler dans ce qu'elle ressent comme la volonté du Seigneur. Donc elle fait pas les choses pour elle-même. Quand les choses deviennent difficiles, Elle tient bon parce qu'elle sait que le Seigneur la veut là. Quand les choses vont devenir difficiles au Canada, notamment quand les guerres iroquoises vont devenir très très violentes et qu'on dit aux Ursulines « rentrez en France », elle dira « je ne rentrerai que si le Seigneur me dit très clairement qu'il faut que je rentre ». Donc elle embarque au mois de mai 1639 avec 2 compagnes, un père jésuite et 3 religieuses hospitalières qui vont fonder l'hôpital de Québec. La traversée dure 3 mois, les conditions sont particulièrement éprouvantes et elle est accueillie à Québec au mois d'août. Elle va s'installer pour quelques années, à peu près 3 ans, dans une maison au bord du Saint-Laurent, où elle va vivre avec ses 2 compagnes ursulines et leurs pensionnaires, dont des indiennes et des françaises, dans quelques mètres carrés pour vivre. 2 pièces où elles dorment, où elles font la cuisine, où elles font la classe, où elles disent les offices. Elle dit qu'à l'intérieur de cette petite maison en bois, l'hiver, quand le vent souffle, les bougies s'éteignent. Vous imaginez au Canada, hein, il fait pas 0 degré, il fait plutôt moins 20 degrés. Pendant qu'elle s'installe au Canada, elle élabore les plans du monastère dans lequel les Ursulines vont s'installer, sur les hauteurs du Cap Diamant. Elle lance les travaux, elle en assure le suivi, et puis ensuite elle s'installe dans le monastère avec ses sœurs. Elle dirige la communauté de religieuses, dont elle écrit les règles et les constitutions. Elle soutient la colonie. Elle se plonge avec délectation dans l'étude des langues. Elle apprend l'algonquin, le montagnier à 40 ans et le huron à 50 ans. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui essaient d'apprendre des langues à 50 ans. Moi, c'est mon cas. Et c'est très, très, très difficile. C'est beaucoup plus facile de les apprendre à 20 ans. Elle fait ça avec un talent absolument remarquable. Elle se retrouve à écrire des grammaires, des dictionnaires, des catéchismes dans ces langues. Et on dit autour d'elle qu'elle a une très grande capacité pour apprendre les langues. Elle participe à l'éducation des jeunes filles, confiée aux soins des Ursulines, donc des Françaises et des Indiennes. Elle garde un contact épistolaire avec la France, tant pour solliciter une aide nécessaire au maintien de la colonie et des Ursulines en place, et que pour soutenir la colonie. Et puis elle entretient un lien spirituel. Comme je vous ai dit, elle ne parle plus de grâce mystique, mais tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle vit, se vit sur un fond d'une foi immense dans le Seigneur, qui est présent à tout ce qu'elle entreprend. Elle va vivre cependant une épreuve spirituelle sur laquelle je vais revenir plus tard, qui durera pas loin de 7 ans. Alors, outre les épreuves intérieures, Marie de l'Incarnation va aussi connaître les épreuves matérielles. Vous imaginez la vie au Canada, dans une colonie qui commence, qui démarre, dans un pays absolument... aux conditions climatiques très très rudes. Les gens sont pauvres, la vie est précaire. Le monastère érigé en 1642 part en flammes en 1650, il faut le reconstruire. Les Ursulines ont absolument tout perdu, elles se sont retrouvées, c'était à Noël, elles se sont retrouvées en chemise de nuit, pieds nus, sur la neige, devant leur monastère qui est parti en flammes. Les Iroquois déclarent la guerre aux Français et mettent en péril la survie de la colonie. Des épisodes de tremblements de terre menacent aussi la terre. Enfin, il se passe beaucoup de choses très compliquées. La colonie est souvent durement éprouvée et Marie de l'Incarnation permet aux troupes de garder le moral. Elle est d'ailleurs encore beaucoup aimée aujourd'hui au Canada parce qu'elle fait partie de ceux qui ont permis à ce que la colonie tienne le coup. Elle va mourir à Québec, entourée de ses sœurs, le 30 avril 1672. Et le témoin privilégié de sa vie intérieure, le père jésuite qui l'accompagnait, le père Jérôme Lallemand, la qualifiera de Thérèse de la Nouvelle-France, en référence à la Thérèse d'Avila, la Grande Thérèse. L'expression Thérèse de la Nouvelle-France sera reprise par Bossuet. Donc Marie, comme je vous ai dit, elle est aimée et connue des Canadiens. Sa statue figure sur la façade du Parlement à Québec. Elle est aimée parce qu'elle fait partie de l'histoire du pays naissant, une histoire semée d'embûches. Parce qu'elle a contribué à rendre possible l'installation et surtout le maintien des colons en terre canadienne, parce qu'elle est un passage obligé pour tous les historiens, les anthropologues et même les géographes qui s'intéressent à la genèse de ce pays. Elle a tellement parlé du pays que ses écrits sont des sources précieuses de connaissances du pays naissant. Donc c'est les lettres de Marie de l'Incarnation, c'est les chroniques du Québec naissant. Elle décrit le pays, le climat, ce qui pousse, ce qui s'y plante. Elle fait venir des graines de France pour essayer de les planter là-bas. Elle envoie des graines du Canada pour essayer de les planter en France. Elle décrit les populations locales, leurs mœurs, leurs pratiques religieuses, leur régime alimentaire, leur mode de vie. Tout l'intéresse, tous les petits détails de la vie quotidienne l'intéressent. Autant que les grandes affaires mystiques, peut-être plus. Elle décrit la société française qui s'établit au Canada, les guerres qui font rage entre les Indiens et les Français. Les phénomènes naturels, enfin, absolument rien n'échappe à sa curiosité. De l'activité d'écrivain de Marie de l'Incarnation, il est resté une correspondance de 278 lettres. On pense qu'elle en a écrit environ 13 000. En gros, une lettre par jour pendant 33 ans. Donc il reste deux biographies spirituelles qu'elle appelle ses relations, les relations dites de 1633, écrites à Tours, et 1654, écrites au Canada. Des notes d'oraison, des écrits sur le cantique des cotiques, puis des livres de contes, des lettres de traite, des dictionnaires, des grammaires, des catéchismes dans différentes langues amérindiennes. Alors, une partie de ça est perdue malheureusement, parce que par exemple les catéchismes ou les dictionnaires qu'elle écrivait, les jésuites les prenaient sous leurs bras pour partir en mission dans la forêt, et souvent, quand ils revenaient, ce qui n'était pas le cas, pas toujours le cas, ils revenaient sans les livres de Marie de l'Incarnation. Voilà, donc maintenant que nous connaissons un peu Marie de l'Incarnation, nous allons faire ce travail de carottage, comme je vous ai dit tout à l'heure, et essayer de comprendre quel est l'esprit de cette missionnaire. Quel est le fondement de son esprit missionnaire? Le mot-clé, c'est une capacité à se laisser convertir, c'est-à-dire à se laisser retourner. Alors, il y a deux expériences de conversion dont je vais vous parler. Une première qu'elle appelle sa grâce de conversion, je vous ai évoqué ça tout à l'heure, et une deuxième qui ne ressemble pas à une conversion au sens habituel du terme, ou comme on l'entend habituellement, mais qui, selon moi, est aussi fondamentale et parle aussi bien d'elle que la première. Alors, la première conversion, c'est une expérience mystique qui va permettre à Marie de l'Incarnation de découvrir un visage du Seigneur en relation avec elle. Un Seigneur intimement uni à elle, mais qui reste en même temps à distance. Car elle comprend par cette expérience mystique, on ne met pas la main sur Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train, donc ça c'est en France, elle est en train de vaquer à ses affaires, comme elle dit. Elle marche dans les rues de Tours, et tout d'un coup, elle se voit subitement arrêtée, intérieurement et extérieurement, dit-elle. Les yeux de son esprit sont ouverts et elle voit dans une très grande clarté tout son péché, c'est-à-dire ce qui la sépare du Seigneur, ce qui la maintient à distance du Seigneur. Puis au même moment, elle se voit comme plongée dans du sang qui est celui du Fils de Dieu. Alors on n'est pas là dans une vision d'horreur gore, mais au contraire, dans le sang là figure le don de l'amour absolu, total, sans retour en arrière et gratuit du Seigneur pour elle. Et tout en étant plongée dans ce sang, qui est celui donc du Fils de Dieu, elle est consciente que ce sang a été versé à cause d'elle, qu'elle porte la responsabilité de ce sang versé, et pourtant que l'amour et la miséricorde lui sont accordés totalement. Donc vous voyez, elle vit en même temps une expérience de ce qui la sépare totalement du Seigneur, donc son péché, elle le voit, et en même temps une expérience qui l'unit profondément au Seigneur. Elle est plongée dans le sang, quoi de plus intime que d'être plongée dans le sang d'une autre personne? Voilà, il n'y a pas plus intime que ça comme expérience. Alors cette expérience est douloureuse, mais c'est une expérience fondamentale pour Marie de l'Incarnation, parce qu'elle prend conscience que la relation à Dieu, c'est cette relation faite de proximité et de distance, et elle, par extension, va pouvoir aussi comprendre que la relation à l'autre doit être faite de ce même couple de proximité et de distance. Donc ça, c'est la première conversion qui va fonder le terrain sur lequel elle va devenir missionnaire. La deuxième conversion est une conversion qui va se vivre au Canada. Donc pour que sa stature de missionnaire puisse vraiment se déployer, il va falloir qu'elle passe par une deuxième conversion qui est plutôt une épreuve, qui se présente sous la forme d'une forme de dépression. Alors elle la qualifie en termes spirituels, mais c'est une forme de dépression, enfin de profonde épreuve intérieure, de perte de goût de la vie. Donc c'est une expérience qu'elle raconte dans ses écrits, puis dans sa correspondance, de dépossession d'elle-même. Elle se vide, elle se voit comme vidée d'elle-même. Ça dure 7 ans. Elle se vide de ses certitudes, tout ce qu'elle sait sur la marche du monde, sur la marche des affaires, ce qu'elle sait d'elle-même se délite. Elle supporte très difficilement ses contacts français, enfin ses amitiés françaises, c'est-à-dire les sœurs, les pères jésuites, elle a beaucoup de mal avec eux, qui pourtant représentent le lien avec le pays qu'elle a quitté, ça pourrait être son point d'ancrage, mais non, elle supporte plus très bien ses amis français. Elle a perdu le goût de la foi, elle perd pas la foi, elle perd le goût de la foi, elle a perdu le lien au Seigneur, elle dit qu'elle n'a plus goût à rien, tout ce que je faisais m'était désagréable et insipide. C'est une femme d'action, vous imaginez une personne d'action qui dit avoir perdu le goût à l'action. La seule chose pour laquelle elle a perdu le goût, c'est tout ce qui concerne les Indiens. S'occuper des petites Indiennes, apprendre les langues, ça, elle continue à aimer. Donc vous voyez bien qu'il se joue quelque chose qui est de l'ordre d'une dépossession de ce qu'elle est, la française du XVIIe siècle français, enracinée dans ses certitudes. Elle perd ça, elle se défait de ça pour pouvoir acquérir le goût et la capacité de rencontrer un Canada, une terre nouvelle, des Indiens, des gens nouveaux, une population nouvelle, et pour pouvoir aller à leur rencontre. Donc c'est une nuit probablement psychologique, qu'elle vit comme une expérience spirituelle qui dure environ 7 ans et dont elle est sortie grâce à la Vierge Marie. Elle dit qu'elle a été tentée par le suicide, qu'elle appelle une tentation de désespoir. Alors, peu importe la façon dont on qualifie cette expérience dans sa vie, ce qui compte, c'est de voir les fruits que cela produit dans sa vie de missionnaire. Le fait de se vider d'elle-même, d'être dépossédée de ses certitudes, de sa superbe fait qu'elle peut accueillir l'autre, celui qui est différent, qu'elle peut faire place en net en elle pour accueillir un autre. Et elle dit elle-même que ces événements vont avoir des effets, vont avoir pour effet de la disposer à ses missions. Cette opération, dit-elle, n'est qu'une disposition à ce qui est présent. Et elle se trouve transformée au point, dit-elle aussi, qu'elle ne se connaît plus. Donc, elle est vidée d'elle-même pour faire place à elle, en elle à l'autre, pour pouvoir l'accepter, l'accueillir et le regarder tel qu'il est. Une historienne canadienne avait fait une histoire de la mission et disait que la tendance des missionnaires catholiques au XVIIe siècle, c'était d'arriver sur une terre, d'imposer leur vue toute faite sur la terre, et donc cette historienne disait que les missionnaires avaient tendance à méconnaître plutôt que de connaître le terrain ou les hommes et les femmes auxquels ils s'adressaient. Chez Marie d'Incarnation, on a exactement l'opposé de ça, c'est-à-dire que c'est pas le pays et les gens qu'elle rencontre, qu'elle méconnaît, c'est elle-même qu'elle accepte. C'est tout ce qu'elle connaît, ses certitudes qu'elle accepte de méconnaître pour pouvoir bien connaître le pays qu'elle va rencontrer. Malgré tout, elle reste une femme de son temps, mais avec ses habitudes de femme de française du XVIIe siècle, elle porte un regard renouvelé sur les Indiens et leur culture. Même si des aspects de cette culture ont de quoi choquer largement une femme... la femme qu'elle est, élevée dans la France du XVIIe siècle. Elle accepte les différences, elle ne cherche pas à les gommer, et elle les raconte à l'envi dans sa correspondance. Elle parle de tout ce qui est différent, les habitudes alimentaires, les mœurs, les pratiques religieuses, la langue, la façon de s'habiller. Enfin, tout ça l'intéresse et peut-être que ça la surprend, mais elle ne porte pas de jugement là-dessus. Donc, il y a un double mouvement, elle se vide d'elle-même, donc il y a un mouvement de dépossession par rapport à ce qu'elle sait d'elle-même, et un autre mouvement qui est d'accepter de se remettre dans les mains du Seigneur et de se laisser guider par lui. Elle dit « Ce pays est un pays où il faut accepter de se laisser mener par Dieu. C'est un pays où, dit-elle, tout ce qu'on sait sur la marche des affaires ne fonctionne plus. On est complètement aveugle. » Donc vous voyez, nous sommes très loin de l'image d'un missionnaire pétri de certitude, qui viendrait apporter du haut de sa culture et de son savoir, le salut aux pauvres ignorants. Marie quitte la position surplombante si facilement prise par les missionnaires et se laisse modeler par les circonstances nouvelles, par le pays. Elle se laisse convertir par son pays d'adoption. Elle va prendre 7 ans à écrire les constitutions et les règles. Les constitutions et les règles d'un ordre religieux, c'est très important, ça régimente la vie en commun. Elle va prendre 7 ans à les écrire en disant il faut d'abord s'adapter au pays et voir ce que le pays nous dit avant d'écrire les constitutions. Les constitutions des Ursulines au Canada ne peuvent pas être les mêmes que les constitutions des Ursulines à Paris. Donc attendons. Voilà, donc ça c'est la conversion qu'elle accepte de vivre, qui est le présupposé, qui est le fondement de la missionnaire qu'elle va être. Qu'est-ce que ça va produire comme type de regard sur la mission et sur les Indiens et sur le pays? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quel va être le regard de singulier de Marie d'Incarnation? C'est un regard que je vais vous résumer en 3 points. Marie d'Incarnation va développer 3 capacités. Une capacité à voir autrement, c'est-à-dire à voir des choses que peut-être un regard un petit peu pas attentif et pas pétri de ce qu'elle est, de cette maturité spirituelle, ne verrait pas. Donc elle est une fine observatrice du Canada et de la vie amérindienne. Elle est capable non seulement de voir, mais aussi d'en rendre compte avec un certain ton, qui est un ton sans jugement. Donc ça, c'est la 2e capacité. Voir et dire différemment. Et la 3e capacité, c'est se laisser ce regard qu'elle pose sur le Canada, la travailler en retour et voir son pays d'origine et sa culture d'origine différemment aussi, avec un regard critique qu'elle n'avait peut-être pas en partant au Canada. Alors son premier point, voir autrement. Donc, elle s'appuie sur des qualités d'observatrice reconnues et elle arrive à voir dans une humanité commune, la différence. Elle dit tout simplement quand même qu'il en va des sauvages. Alors les sauvages, c'est pas, il n'y a pas de connotation péjorative, hein, quand elle parle de sauvages, ce sont les Indiens. Elle dit qu'il en va des sauvages comme des Français. Ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Malgré tout, elle voit les différences et puis elle les raconte. Alors, les Amérindiennes bénéficient d'un traitement privilégié de sa part. Elle en parle abondamment. Et tout en maintenant le langage de rigueur au XVIIe siècle sur le sexe faible, elle offre une image tout autre de la femme grâce à des descriptions des femmes autochtones. Elle ne cesse d'évoquer le rôle des femmes dans la société amérindienne, le rôle des femmes dont l'autorité est reconnue par tous, hommes comme femmes. Je la cite, « Ces capitainesses sont des femmes de qualité parmi les sauvages, qui ont une voix délibérative dans les conseils et qui en tirent des conclusions, comme les hommes. » Et même, ce furent elles qui déléguèrent les premiers ambassadeurs pour traiter de la paix. Vous imaginez, on est au XVIIe siècle. La femme, il n'est pas question que la femme ait un pouvoir politique. Là, elle constate que les femmes ont un pouvoir politique. Elle le raconte, sans s'extasier trop, parce que ça passerait pas auprès de ses correspondants français, mais elle le dit. Elle parle aussi de ces Indiennes qui, à tout âge, jeunes ou plus âgées, parcourent des kilomètres dans une nature absolument hostile, en plein cœur de l'hiver, pour aller évangéliser d'autres Indiens ou pour fuir la captivité. Elle décrit les trésors d'ingéniosité dont les femmes sont capables pour survivre. Et on est très très loin de la faiblesse de notre sexe qui se glisse dans ces lignes, mais on se demande ce qu'elle pense de la faiblesse du sexe féminin quand elle parle de ces femmes. Elle décrit des femmes qui sont fortes, qui sont courageuses, qui affrontent les adversités, les contre-coups du sort, qui manie la hache tant pour abattre des arbres que pour abattre les ennemis. Au-delà de la place différente des femmes que les femmes occupent dans la société amérindienne, c'est la société elle-même que Marie décrit et découvre. La distribution des rapports sociaux qui est radicalement différente de ce qu'elle connaît. Les relations conjugales libres. Le divorce. Elle remarque que les Amérindiens, les hommes, n'exercent pas de contraintes sexuelles. C'est une société dont, dit-on, c'était une société sans viol. Elle voit que les femmes, même les prisonnières, sont libres d'aller et de venir. Elle dit que les Iroquois sont bien barbares. Alors barbares, là, pour le coup, il y a une connotation péjorative. Mais assurément, ils ne font pas aux personnes de notre sexe les ignominies qu'on me demande que les Français ont faites. Ceux qui ont habité parmi eux m'ont assuré qu'ils n'usent point de violence et qu'ils laissent libres celles qui ne leur veulent pas acquiescer. Elle remarque que les hommes et les femmes se partagent le devoir de subvenir aux besoins de la famille, que les femmes travaillent dur, qu'elles traitent les pots, qu'elles s'adonnent à de nombreuses tâches physiques. Elle remarque aussi que les parents sont très attachés à leurs enfants, ce qui est aussi assez étonnant pour une femme du XVIIe siècle, enfin pour la société française en tout cas. Société française, en France, on mettait les enfants en nourrice à 5 ans, au risque qu'ils ne reviennent pas parce qu'ils pouvaient être très maltraités. Là, c'est absolument impensable. Elle remarque que les parents donc, sont à l'écoute des besoins affectifs de leur progéniture, que s'ils sentent que leur enfant est malheureuse dans le monastère avec les Ursulines, ils viendront la rechercher immédiatement. Elle remarque aussi que les jeunes filles, quand elles sont malheureuses et tristes, s'en vont et elle comprend et laisse faire. Donc elle sait voir ces choses-là, elle sait le remarquer, mais elle sait aussi en parler sans jugement. Elle en parle autrement, peut-être qu'un homme du XVIIe siècle en aurait parlé. Donc elle évoque toutes ces différences sans s'y attarder. Elle parle souvent des choses les plus étonnantes sur un ton descriptif et donc semble ne pas porter de jugement sur ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle ne devrait pas s'offusquer, par exemple, qu'un certain Indien, Charles de Tadoussac, récemment converti, ait voyagé avec un groupe de femmes, et campé en gros avec un groupe de femmes, dormi avec elles afin de les garder sous sa protection? Elle, en tout cas, n'exprime aucune réprobation et compte simplement les faits. Encore une fois, replacez-vous dans le contexte du XVIIe siècle. Un jeune homme qui partirait camper avec des jeunes femmes, je ne crois pas que ça obtiendrait l'approbation des parents et des chaperons. Mais là, voilà, elle raconte ça et elle est toute confiante dans les bonnes intentions du cher Charles. Elle remarque aussi que les Indiens sont accoutumés à vivre d'une grande liberté, que les contraintes sociales que les Français connaissent leur sont radicalement étrangères. Elle constate cela et ne le condamne pas, encore une fois. Donc quand les jeunes indiennes, comme je vous ai dit, devenaient mélancoliques dans la clôture, qu'elles s'échappent de la clôture pour rejoindre le grand air de la forêt, elle explique ce comportement, qui devrait lui sembler par trop libre. Elle dit, il y en a d'autres qui s'en vont par fantaisie et par caprice. Elles grimpent comme des écurieux, comme des petits écureuils, notre palissage, qui est haute comme une muraille, et vont courir par les bois. Parce qu'elle dit-elle, elles ont un tempérament mélancolique quand elles sont enfermées, et donc elles ont besoin de leur liberté. Elle parle du divorce, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pareil, sans autre commentaire, elle dit, c'est la coutume du pays que quand les personnes mariées se séparent, les femmes emmènent les enfants. Voilà. No comment. Alors, on peut aussi faire la comparaison des écrits de Marie de l'Incarnation, donc qui raconte à l'envi cette vie au Canada, et des écrits des jésuites qui, au même moment, étaient au Canada et écrivaient aussi avec la France, envoyaient une correspondance abondante en France et racontaient, pareil, les chroniques du Canada naissant. Et quand on compare les écrits de Marie de l'Incarnation et les écrits des jésuites, les uns se sont mutuellement copiés, parce que souvent Marie de l'Incarnation écrivait des choses et puis les jésuites copiaient et puis écrivaient les mêmes dans leur relation à eux. Il y a des histoires qui sont extrêmement similaires, ou racontent les mêmes histoires, mais des petits détails montrent quel est le regard de Marie de l'Incarnation. Alors, je vais vous prendre un exemple. Dans une lettre, Marie de l'Incarnation fait un long récit des aventures survenues à quatre femmes qui se sont échappées des griffes des Iroquois. Donc les Iroquois, c'était les femmes, c'était des Hurons. Les Iroquois, c'était des ennemis des Hurons. Et ils se massacraient absolument sauvagement, pas tellement mutuellement, c'était plutôt les Iroquois qui s'en prenaient sauvagement aux Hurons. Donc quand vous étiez prisonnier chez les Iroquois, vous finissiez assez souvent dans la casserole, en ayant vécu des choses un peu désagréables avant. Donc elle raconte l'histoire de ces femmes qui se sont échappées des griffes des Iroquois. Alors trois des récits sont tirés des relations jésuites, donc les récits faits par les jésuites. Et puis, il y a des récits qui sont faits, on a trois récits faits par les jésuites, et puis trois récits, les mêmes, faits par Marie de l'Incarnation. Donc la différence entre la correspondance de Marie de l'Incarnation et la relation jésuite ne touche pas au contenu des récits, qui est à peu près le même, mais au ton, aux petits détails qui font voir que Marie de l'Incarnation pose un regard différent sur les Indiens. Elle ne met pas en valeur les mêmes choses et dit ainsi autre chose. Alors, dans sa relation des faits, Marie d'Incarnation décrit les Indiennes pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles ont été, des femmes qui ont fait preuve d'un courage surhumain dans les épreuves endurées. Elle ne s'attarde pas sur l'état de faiblesse extrême dans lequel ces femmes sont revenues dans la colonie française, comme le font les relations jésuites, pointant ainsi avec d'autant plus de netteté la force, l'ingéniosité et le courage de ces survivantes. Sous sa plume, on ne trouve pas les expressions qu'on trouve sous la plume des jésuites, « pauvres créatures ». Alors, prenons le récit d'une femme, Marie, la femme de Jean-Baptiste. Marie de l'Incarnation va organiser sa narration de l'arrivée de Marie en terre sauve d'une autre façon que les jésuites. Donc, Marie raconte l'histoire en entamant le récit dans l'ordre chronologique. Alors, je vous la cite. « Nous avons appris toutes les particularités que je viens de rapporter de quelques femmes qui se sont sauvées, et particulièrement de la bonne Marie, femme de Jean-Baptiste, dont j'ai déjà parlé. » L'histoire de sa fuite est assez considérable pour vous être écrite. Donc le récit commence ainsi et finit sur l'arrivée de Marie, l'Algonquine, à Montréal, après une description quasi factuelle des événements. À la fin du récit, Marie de l'Incarnation relate simplement que la femme de Jean-Baptiste était si interdite qu'elle ne pouvait ni rien faire, ni rien dire. Et les larmes qu'elle a versées, dit Marie de l'Incarnation, surviennent au moment où la rescapée prend enfin conscience qu'elle est arrivée au lieu où elle a aimé et vécu avec son mari et ses enfants, qu'elle a perdu. La relation jésuite, quant à elle, commence par une question sur l'incompréhensible, donc là je cite les jésuites, il y a un soupçon de désordonné derrière cet incompréhensible, l'incompréhensible amour pour le pays natal, donc le pays de la sécurité, qui a poussé des femmes à quitter la sécurité, je cite encore entre guillemets, du pays iroquois. La sécurité du pays iroquois, c'est le pays où on finit dans la casserole. L'amour désordonné du pays natal, c'est celui où elle est en sûreté. Donc vous voyez, l'homme jésuite considère qu'une femme ne doit pas traverser les forêts pendant 3 mois toute seule, c'est pas convenable et c'est pas sûr. Elle aurait dû rester en captivité chez les Iroquois. Et puis, prenant la narration des faits à rebours, le même jésuite met en exergue l'arrivée de Marie, cette, l'Algonquine, pauvre créature, dans les sanglots et les larmes. Donc il met en avant, il fait ressortir la faiblesse, l'état de désespoir qui restitue cette pauvre femme à son faible sexe. Il y a une autre petite chose qu'on peut évoquer dans cette même histoire. Marie de l'Incarnation et le récit jésuite rendent compte du moment où, prise d'un découragement absolu, la femme, Marie l'Indienne, convaincue qu'elle va mourir, décide de se suicider. Alors elle tente de se suicider, puis elle n'arrive pas. Alors Marie raconte ça, et met ça sur le compte d'une erreur de sauvage. C'est une erreur d'Indien qui ne sait pas que le suicide est absolument, enfin, est un péché. Les relations jésuites mettent cette faute sur le compte d'une erreur bien pardonnable à une pauvre femme sauvage. Vous voyez la différence? C'est subtil, mais la différence est réelle. Pour les jésuites, c'est une femme qui s'est trompée. Pour Marie d'Incarnation, c'est une sauvage qui s'est trompée. Vous voyez, donc elle dit les choses différemment. Elle en rend compte différemment. Et alors, cette capacité à voir et à dire autrement a un effet retour aussi sur ce qu'elle perçoit de sa culture et de ce qu'elle est. Elle parvient à se comprendre elle-même autrement et à comprendre son pays, enfin celui dont elle est issue. Elle a vécu un déplacement de ce pays lointain, enfin, quand elle était en France, le pays Canada qu'elle avait vu en songe, c'était un pays lointain. Et de ce pays lointain, elle a fait son centre. Elle parle de ce pays comme de son centre. Et cette capacité à faire de ce pays le sien fait qu'elle est capable de voir, avec un peu de recul, sa culture française. Alors, par exemple, face à ces hommes que l'on nomme barbares et dont la cruauté est absolument indéniable, elle reconnaît la violence de son peuple d'origine. Pour l'hostilité des Iroquois, ce n'est pas ce qui nous retient. Donc, il y en a qui regardent ce pays comme perdu, mais je n'y vois pas tant de sujets d'appréhender pour nous, comme l'on me dit que les Français, comme l'on dit de France, que les personnes de notre sexe et conditions ont d'appréhender des soldats français. Voilà. Elle est bien consciente que la violence et la barbarie sont également réparties sur les deux continents de part et d'autre de l'océan. Au contact des jeunes Amérindiennes, elle dit aussi que les filles françaises sont bien moins dociles et faciles à éduquer. Sans l'éducation que nous donnons aux filles françaises qui sont un peu grandes, durant l'espace de 6 mois ou environ, elles seraient des brutes pires que les sauvages. Elle donne les jeunes Indiennes en exemple aux Françaises de la colonie. Elle s'émerveille de la foi des chrétiens convertis. Elle vient même affirmer qu'ils font haute aux chrétiens qui sont nés et qui ont été nourris dans le christianisme. Elle donne en exemple à son fils, un jeune Indien. Si l'on m'en venait dire autant de vous, donc de votre foi, mon très cher fils, qui pourrait dire la joie que j'en recevrais? En revanche, elle dit qu'il ne faut surtout pas laisser les Indiens en contact des Français parce que la corruption vient des Français. Les Indiens vont se retrouver corrompus par l'alcool que les Français vont apporter pour obtenir des choses des Indiens. Ils supportent très mal l'alcool, la moindre goutte d'alcool les rend fous, furieux, et après les Français en profitent pour négocier par exemple des pots ou des armes pour 3 fois rien, et ça sème le trouble dans la colonie. Elle perçoit les vertus de piété, d'obéissance, d'humilité et de simplicité dont elle dit que les Indiens sont pourvus, contrairement aux Français. Voilà, vous voyez, la correspondance de Marie de l'Incarnation regorge de tous ces détails qui voient comment son regard s'affûte et se renouvelle au contact du pays. Elle est venue pour s'attacher les Indiens par charité, dont elle serait elle-même la dispensatrice en bonne missionnaire, et elle découvre petit à petit que c'est elle qui se trouve attachée aux Indiens par un lien d'amour qui la surprend elle-même. Elle est venue pour participer à la francisation des Indiens, et elle finit par avouer à son fils que la francisation est un échec, que les Indiens font des très bons chrétiens, mais de très mauvais Français. Voyez, elle est capable de changer, de renouveler sa façon de voir les choses. Elle qui croyait aborder une terre abritant un enfer, un pays autant pitoyable qu'effroyable, dit-elle, elle découvre d'abord un paradis, et puis après un pays qui a ses pauvretés et ses richesses, comme sa France. Donc elle acquiert une maturité, une certaine lucidité sur le pays indien, sur le Canada comme sur la France. Donc les évidences qu'elle portait en elle se sont ébranlées et elle ne sait plus très bien dire qui sont les barbares et qui sont les bons croyants, qui sont les sauvages. Et elle est capable de se revisiter autrement, grâce à ce regard qu'elle a porté sur l'autre, un regard qu'elle sait renouveler, qu'elle sait convertir. Voilà, cette rencontre s'est produite sur un terrain fécondé par une expérience mystique, ou par la capacité à intégrer son expérience mystique dans ce qu'elle vit après. Donc finalement, pour conclure, il n'y a pas à être surpris que les deux expériences fondatrices d'une missionnaire entrent dans le champ spirituel de la conversion. Marie vit sa vocation d'apôtre et de missionnaire à l'aune d'un mouvement de conversion, c'est-à-dire d'une capacité à opérer ce déplacement intérieur. C'est parce qu'elle intégrait à travers ses expériences spirituelles et sa relation à Dieu, le fait qu'être apôtre et missionnaire, c'est aller à la rencontre d'un autre. La mise en contact avec les étrangers dans une relation faite de distance et de proximité ne laisse pas indemne, elle s'est laissée toucher. Toute œuvre d'évangélisation, d'éducation, d'accompagnement, toute mission ne peut se mener à bien dans un esprit d'accueil de l'autre tel qu'il est que quand elle se fonde sur la conviction profonde que l'autre reste pour soi un étranger, une terre dont on ne pourra jamais lever tous les mystères. C'est cette expérience que nous sommes appelés à faire, nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. En tout cas, moi, c'est celle que je fais en tant que mère, en tant qu'accompagnatrice, en tant qu'éducatrice. Et c'est un fait auquel nous sommes tous, vous comme moi, appelés, auquel nous devons revenir sans cesse pour ne pas nous approprier la rencontre, pour ne pas mettre la main sur l'autre et le nier, et nier la part de continent inconnu qu'il est pour nous. Nourrir cet état d'esprit peut nous permettre, nous qui sommes parfois en position de surplomb, ça peut nous permettre de revisiter à la lumière de la découverte de l'autre quelque chose de nous. Et c'est ce que Marie de l'Incarnation illustre dans sa vie et avec l'esprit dont je vous ai parlé ce soir. Ainsi, on peut appliquer à ce qu'a vécu Marie d'Incarnation et prendre pour nous ce que dit une jeune théologienne protestante qui s'appelle Marion Muller-Collard. C'est qu'on ne sait plus à la fin qui fait hospitalité à qui. C'est une dynamique de l'Évangile de douter en permanence de l'identité de l'accueillant et de l'accueilli et de laisser faire une rencontre. C'est-à-dire que ce n'est plus ni toi ni moi qui faisons la rencontre, mais c'est la rencontre qui nous fait. Voilà.
La conversion d'une missionnaire, Sœur Marie de l'Incarnation. Vous venez de suivre l'intervention de Marie-Caroline Bustaré, docteur en théologie, rédactrice en chef adjointe de la revue Christus, une intervention enregistrée en l'église de Saint-Jean de Luz le 13 août 2019.
Regard de femme. Vous venez de suivre une conférence enregistrée en l'église de Saint-Jean de Luz lors des mardis de l'été 2019, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.